Vous écoutez France Musique.
Changer de disque, Émilie Munera.
Bonjour à tous, au programme L'art des jongleurs et des trouvères, une symphonie de Bruckner rééditée et Martha Argerich entourée de ses célèbres friends. À 17h30, la chronique musique et images de Jean-Baptiste Urbain, un documentaire Richard Strauss et ses héroïnes. Un disque qui paraît sous le label Melodia, au programme 4 compositeurs russes, Glinka, Stravinsky, Rubinstein et Glazounov, et puis 2 artistes russes, justement pour les défendre, l'altiste Mikhaïl Kugel et le pianiste Boris Berezovsky.
Thank you.
Extrait de la sonate pour alto et piano en ré mineur de Mikhaïl Glinka. C'est Mikhaïl Kugel à l'alto et Boris Berezovsky au piano. L'occasion de découvrir ce musicien, Mikhaïl Kugel, altiste, mais aussi professeur, compositeur réputé, ancien membre du Quatuor Beethoven. Et c'est une personnalité très importante dans son pays, très respectée évidemment par ses confrères altistes parce qu'il fait beaucoup pour son instrument. Et on le retrouve donc ici dans un duo assez remarquable avec Boris Berezovsky, pianiste pour le coup que l'on connaît très bien chez nous. Avec en plus de cela un programme assez rare, notamment la sonate en fa mineur de Rubinstein, ainsi que l'œuvre que vous venez d'entendre, la sonate inachevée pour alto et piano de Glinka, une œuvre écrite par un jeune musicien qui n'a été découverte et créée d'ailleurs que plus de 100 ans après son écriture en 1932, une sonate qui ne contient que deux mouvements. Découverte également en fin de disque d'un compositeur autrichien du 19e siècle qui a réalisé beaucoup de transcriptions, Heinrich Wilhelm Ernst. Hein, beaucoup de pubs en tout cas pour Melodia qui réédite surtout des archives de grands pianistes soviétiques du tout neuf, donc ici et pas des moindres. Chanteur, danseur et jongleur, c'est le thème du nouveau disque de l'ensemble à la Francesca qui nous emmène dans le monde des trouvères et des jongleurs. Thank you. Chanson de mal mariée, anonyme évidemment, Brigitte Laine, notamment Pierre Hamon, l'ensemble à la Francesca pour ce nouveau disque paru sous le label Agogique, un programme qui met en évidence une question fondamentale de la transmission de la lyrique médiévale d'Hoc et Doyle, le rôle essentiel des jongleurs à côté des troubadours ou alors des trouvés. Alors qui sont ces jongleurs? Des ménestrels en quelque sorte, des chanteurs ambulants qui interprètent les poésies composées par les trouvères, et ce sont d'ailleurs les compagnons attitrés de ces derniers. Alors, ce n'était pas un métier très apprécié parce que dès l'Antiquité, c'est un personnage qui a vraiment mauvaise réputation. L'Église blâme ensuite ses activités en le plaçant dans la même catégorie que les prostituées. Guillaume, 9e duc d'Aquitaine, a été traité de bouffon, par exemple, pour cette activité par les clercs chroniqueurs de sa cour. On découvre les jongleurs, donc, à travers ce disque. C'est l'ensemble à la Francesca et c'est le label Agogique qui nous propose ce programme fort original. Direction Lugano, maintenant avec Martha Argerich et ses célèbres amis.
Thank you.
Extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, Martha Argerich, Lilia Silberstein, Andrei Baranov, Mikhail Gutman, Lida Chen pour ne citer que. Extrait de ce nouveau coffret Warner Classic, Martha Argerich and Friends, Live from Lugano 2013. On a déjà eu ce genre de disque pour les saisons précédentes puisque c'est le 12e Progetto Martha Argerich, le 12e projet de la pianiste qui s'est déroulé en juin et au début juillet 2013. Alors toujours le même concept depuis 2004. Inviter les musiciens les plus prometteurs à jouer en récital ou en musique de chambre avec leur père plus âgé, le tout sous l'égide de la grande Martha. Une compilation de 3 disques qui nous fait entendre les temps forts des 16 concerts donnés à Lugano. Du côté des musiciens confirmés, on retrouve l'ami de longue date, le violoncelliste Micha Maïski, Renaud Capuçon également de la partie. Il joue d'ailleurs une sonate de Respighi avec un jeune pianiste dont je vous ai souvent parlé dans cette émission, notamment récemment avec un disque Mozart, c'est l'excellent Francesco Piemontesi. Et j'avoue que pour le coup, et bien pour les autres musiciens, je ne les connaissais absolument pas. On peut faire confiance à Martha Argerich pour dénicher les talents. Les amoureux de la pianiste l'entendront en tant que soliste dans le premier concerto de Beethoven. C'est une œuvre qui la suit depuis déjà si longtemps. C'était le 3 juillet 2013 avec Hubert Soudan à la baguette. We'll be right back. Le final du premier concerto pour piano de Beethoven, Martha Argerich, l'orchestre de la Suisse italienne et Hubert Soudan à la baguette. C'est extrait de ce coffret Martha Argerich and Friends. Ce sont des concerts donnés à Lugano en 2013 et c'est paru sous le label Warner Classic. 17h30 sur France Musique. Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Émilie Munera.
La chronique musique et images avec des héroïnes, ce sont celles de Richard Strauss.
Oui, on avait parlé le mois dernier, souvenez-vous, de l'Electra de Richard Strauss, mise en scène par Patrice Chéreau à Aix-en-Provence. Ultime mise en scène de Chéreau, sublime, extraordinaire film, un vrai film qui vient de paraître, on en avait parlé. Et voilà, ça m'a donné envie de regarder ce DVD qui lui est sorti, voilà quoi, quelques semaines. Le titre n'est pas forcément super engageant, ni d'ailleurs la couverture un peu étrange, où on voit Richard Strauss, en monsieur un peu sévère, hein, avec sa moustache. Bon, eh bien, j'ai tout faux, parce que c'est un documentaire absolument passionnant. Il est signé du réalisateur allemand, vous avez bien fait, signé du réalisateur allemand Thomas von Steenhecker, un film qui n'a pas l'emphase de, on va dire, certains documentaires qui parfois nous viennent d'outre-Rhin. Pas du tout réservé aux spécialistes, aux lyricomanes, non. Ça nous raconte des histoires, et en particulier, c'est un film qui raconte la vie de Strauss à travers ce prisme, cet angle, comme on dit dans le milieu journalistique, des femmes. Alors, pourquoi les femmes? Elles sont la clé du mystère de Richard Strauss. Il est le compositeur qui a le mieux compris les femmes, nous dit le film. Image à la pluie, on voit pas mal d'images d'archives avec Richard Strauss dans ce film. D'ailleurs, le tout premier plan du documentaire, c'est une chanteuse qui remet un bouquet de fleurs au compositeur à la fin de sa vie et qui le remercie pour tout ce qu'il a fait pour la voix féminine. Et c'est vrai que du scandale de Salomé en 1905, c'est tout ça que nous remémore le film, jusqu'à Electra, la maréchale du Chevalier à la Rose et tant d'autres, Richard Strauss est comme entré dans la psyché féminine avec ses femmes fortes, tour à tour érotique, mélancolique ou encore haineuse. Voilà en gros ce qui est en filigrane de ce film, Richard Strauss et ses héroïnes ou ses héroïnes. Je ne sais pas très bien si on fait la liaison ou pas.
C'est bien de partager vos doutes avec l'auditeur, Jean-Baptiste.
On s'est posé la question avant.
Non, c'est vous qui vous la posez d'abord, arrêtez maintenant. Alors quand on connaît un peu la vie de Richard Strauss, on sait que sa première héroïne, justement, c'est sa femme. Elle est évoquée dans le film, j'imagine.
Oui, bien sûr, la soprane Pauline Deana, une petite femme énergique qui va faire tourner en bourrique plus d'une fois le grand Richard. C'est ce qu'on apprend dans ce film quand ils se rencontrent. Ils travaillent ensemble, mais elle lui jette la partition à la figure. Ça ne va pas les empêcher de se fiancer ensuite, de se marier quelques mois plus tard. C'est par elle que Richard Strauss va vraiment découvrir la voix féminine. Pauline s'amuse, sa bien-aimée, son ennemie aussi. Un jour, elle intercepte une lettre signée d'une mystérieuse Madame Mücke. Elle croit que c'est la maîtresse de Richard Strauss. Elle se lance dans une procédure de divorce, mais Richard va la convaincre qu'elle se méprend. Voilà. Pauline, qui d'ailleurs ne survivra que quelques mois au compositeur, lui meurt en 1949, elle quelques mois plus tard. Les quatre derniers leaders apparaissent clairement comme une ultime déclaration d'amour de Richard Strauss à la fin de sa vie pour sa chanteuse de femme. C'est ce que René Fleming, l'une des personnes qui témoigne dans ce film, raconte. Et elle fait le parallèle avec quatre autres leaders écrits, eux, pour Pauline. Et parmi eux, ce Morgan a tombé. Morgan, René Fleming, l'English Chamber Orchestra, dirigé par Jeffrey Tate. C'est moi qui l'ai choisi pour illustrer. C'est pas mal, hein, ce documentaire.
Vous dites ça comme ça, c'est moi qui l'ai choisi.
C'est moi qui l'ai fait.
Bah
c'est
oui,
moi qui l'ai choisi.
Mais d'habitude, c'est
ce
pas
documentaire
moi qui
Richard Strauss et ses héroïnes. Hein, on fait la liaison, le petit
mais
Robert
oui
nous le dit.
Avec, je ne sais pas ce que vous avez avec ça.
Ben, je ne sais pas, j'avais un doute. On est faillible par
oui,
moment.
C'est vrai, c'est vrai.
Avec, hélas, des extraits un peu courts. C'est la loi du genre de ce documentaire. Ce genre de documentaire est un très beau également. Im Abendroth, dernier des quatre derniers leaders avec Claudio Abbado et René Fleming. Ça, c'est la toute fin du film. René Fleming qui témoigne donc dans ce documentaire, de même que Christa Ludwig, Brigitte Fassbender, le chef Franz Welser Möst et beaucoup plus étonnant, un certain Rufus Wainwright, le chanteur
ah oui
et compositeur.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Eh ben, il est fan de Richard Strauss, figurez-vous, Rufus Wainwright.
D'accord.
Il s'y connaît très bien, il parle de ses opéras et de son rapport aux héroïnes.
Parfait, merci beaucoup Jean-Baptiste Urbain. On vous retrouve la semaine prochaine, alors non pas mercredi, mais jeudi, puisque vous serez en voyage, dites-nous où ?
En Grande-Bretagne, du côté du Festival Britain.
D'accord, donc vous reviendrez tout frais pour nous dire eh bien, comment vous avez vécu ce pèlerinage.
Absolument, à la fois dans la matinale Britain de Jean-Michel Duez, et puis avec vous, avec des DVD tout frais.
Très bien, ben ça sera donc jeudi prochain. Merci Jean-Baptiste. Une collection dont je vous ai déjà parlé il y a deux semaines. Les musiciens et la Grande Guerre, lancée par les éditions Hortus pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Je vous avais fait écouter le premier volume consacré à Albéric Magnard, le troisième construit autour de Maurice Maréchal. Le second volume nous amène en 1913 au carrefour de la modernité. La célèbre danse de la terre, finale du premier tableau du Sacre du printemps de Stravinsky, version donc pour piano à quatre mains par Jean-Sébastien Durau et Vincent Planès qui joue sur un piano pléiel à double clavier. Donc programme pour deux pianos avec trois musiciens qui en 1913 nous font entendre vraiment trois esthétiques bien distinctes qui s'engagent dans des voies très différentes. Il y a donc Igor Stravinsky avec la réduction de ce Sacre du printemps, la fantaisie contrapathique de Busoniste, un hommage à Jean-Sébastien Bach qui s'inspire des lettres de son nom pour la composition, une œuvre qui regarde vraiment vers la modernité elle aussi. Et puis En blanc et noir de Debussy, c'est une pièce assez sombre pour deux pianos, plutôt à part dans la production du compositeur, avec un troisième mouvement d'ailleurs qui est dédié, je cite, à mon ami Igor Stravinsky. On va écouter le premier mouvement de cette pièce, En blanc et noir. En blanc et noir pour deux pianos, Claude Debussy joué par Jean-Sébastien Durault et Vincent Planès, 1913 au carrefour de la modernité. C'est donc le titre de ce second volume consacré aux musiciens et à la Grande Guerre. 30 volumes à paraître jusqu'en 2018. On finit avec le label Helios qui fait revivre une version de la 3e symphonie de Bruckner par Osmo Vanska et l'orchestre de la BBC d'Écosse. Une œuvre dite Symphonie Wagner parce qu'elle cite plusieurs opéras de ce musicien et une symphonie qui pose parfois un problème pour les chefs parce qu'on connaît pas moins de 8 versions signées par Bruckner et le chef, lui, a retenu la version de 1877 éditée par Léopold Novak et c'est un disque qui a eu un succès colossal lors de sa sortie il y a près de 15 ans. Le magazine américain Fanfare écrivait, je cite, « Voici l'un des meilleurs enregistrements d'une symphonie de Bruckner qui m'était donné d'entendre. Même son de cloche dans l'International Record Review, gramophone, classique FM. » Que des superlatifs. C'est un disque qui n'était pas réédité, donc on ne le trouvait plus qu'à un prix assez élevé. Cadeau donc de la part du label Hyperion qui le sort sous son label Helios. Le final de la troisième symphonie d'Anton Bruckner, c'était Osmovanska à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC d'Écosse, à retrouver sous le label Helios qui appartient donc à Hyperion. Merci à l'équipe du jour, Benoît Latil, Flora Sternadel et Philippe Petit.